France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, en direct jusqu'à 13h, les duellistes, Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et à la tête de la nouvelle revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui, évidemment, sur la guerre en Iran et plus largement au Moyen-Orient, qui nous occupera tout le temps du duel. Et puis pour le débat, nous poserons une question qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec l'actualité internationale. Pourquoi trahit-on ? Cette question et ses ramifications, notre invitée, enseignante-chercheuse en psychologie sociale à l'université de Bâle, se la pose dans son dernier essai « Trahir et être trahi, analyse psychosociale du coup de poignard dans le dos » aux éditions Les Léonides. Une plongée foisonnante dans ce sentiment opposé à la confiance. Vous apprendrez notamment qu'il y a 9 types de trahison et qu'entre le pardon, la vengeance ou le déni, ils ouvrent de nombreuses portes de sortie plus ou moins réparatrices. La psychologue Fanny Lalo sera tout à l'heure avec nous pour le débat, mais pour leur place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
La semaine dernière, nous avions enregistré l'émission vendredi, juste avant les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. Aujourd'hui, en direct, on y accorde une très très large place, l'entièreté d'ailleurs de ce duel. Le pays, l'Iran, a répliqué sur ses voisins, entraînant la région depuis dans un risque d'embrasement sur lequel nous allons revenir et dans lequel nous ne sommes encore aujourd'hui. On va commencer ensemble, tous les deux, par les buts de guerre. Que cherchent Israël et les États-Unis ? Un élément de réponse, après beaucoup, beaucoup de signaux contradictoires, Dana Bash, la journaliste de CNN, a parlé à Donald Trump et voilà ce qu'il lui a raconté.
La question, les nombreuses questions, c'est qui sera le prochain, qui va être le leader ? Il a fait le lien avec le Venezuela, comme on l'a entendu le faire ces derniers jours, mais je lui ai demandé, d'accord, mais au Venezuela, nous avons eu Delcy Rodriguez. Et il a répondu, elle fait du très bon travail. Alors je lui ai dit, est-ce que vous seriez d'accord avec un dirigeant religieux en Iran ? Et il a répondu oui. Il a dit que cela ne devait pas nécessairement être un dirigeant élu démocratiquement en Iran. Il faut simplement que ce soit quelqu'un qui traite les États-Unis et Israël équitablement, ainsi que les peuples et les pays du Moyen-Orient.
Ça, c'est vraiment très intéressant, très précieux. C'est beaucoup commenté, d'ailleurs, au moment où on se parle aux États-Unis, ces propos de Donald Trump. Est-ce que c'est la fin de l'illusion que l'Amérique souhaite amener la démocratie et qu'elle ne songe en réalité qu'à ses propres intérêts ? Mais je vous laisse répondre, Gilles.
Non, ça c'est une illusion pour ceux qui voulaient s'illusionner. Non, ce qui est frappant, c'est que c'est une décision difficile, une des décisions les plus difficiles que Donald Trump ait pris depuis son entrée en fonction. Parce que l'armée iranienne n'est pas l'armée vénézuélienne et que, ce faisant, l'état-major de l'armée américaine était réticent, que le clan MAGA était divisé, que l'opinion américaine y est encore opposée et que nous sommes à quelques mois des midterms. Décision difficile et donc décision préparée. Il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas d'improvisation, la possibilité d'une intervention est préparée depuis des mois. Or, ce qui est frappant, c'est le paradoxe suivant, professionnalisme de l'exécution, amateurisme de la narration. Dans des proportions qu'on a, je crois, rarement vues.
Surprenant de la part de quelqu'un qui maîtrise à ce point le récit.
Exactement. Or, le récit est mouvant. Il est contradictoire, il change selon les moments, oui. Il change selon les personnes. Ça a été vrai de l'initiative, est-ce que c'était une initiative américaine ou est-ce que les Américains ont suivi les Israéliens ? C'est vrai des objectifs, est-ce que c'est un objectif politique, la chute des mollahs ou ce que l'on vient d'entendre à l'instant, simplement...
Un aménagement.
Un aménagement. Est-ce que ce sont des objectifs militaires, l'éradication à la fois du nucléaire et des missiles à longue portée ? Est-ce que c'est la capitulation, ce qu'on entendait hier ?
Oui.
Donc, il y a des objectifs qui sont mouvants et contradictoires. Je crois qu'il y a deux questions pour terminer. La première est de savoir si Donald Trump poursuit ou non un objectif précis. Il est possible que oui, mais il est aussi possible que non. C'est-à-dire que on sait qu'à la fin, Donald Trump dira qu'il a été victorieux. Et que donc, c'est plus facile de l'affirmer en fixant à la fin l'objectif qui est poursuivi, puisque par définition, c'est celui que l'on aura atteint. Ça ne veut pas dire que le chaos de la communication soit organisé et pensé, mais ça veut dire qu'il peut être utilisé en gardant de la marge de manœuvre. Et puis la deuxième question, c'est de savoir s'il y a une convergence entre les objectifs américains et les objectifs israéliens. Une grande différence par rapport à la guerre des 12 jours de l'année dernière, c'est que la guerre des 12 jours était une opération israélienne qui était parachevée par les Américains. Oui. Là, c'est vraiment une opération conjointe entre les Américains et les Israéliens dans la coordination, dans la planification, dans l'exécution, mais avec un partage des rôles. Si on dit de manière trop schématique, l'élimination des dignitaires du régime et de leur lieu symbolique pour les Israéliens, l'élimination de la production, du stockage, de la projection des armements pour les Américains. La question, c'est est-ce que ce partage des rôles, est-ce que c'est le symbole ou le signe d'une divergence des objectifs? C'est-à-dire que pour les Israéliens, le véritable objectif, c'est le changement de régime, et pour les Américains, l'éradication des arsenaux.
Et puis sur la question du récit, je prolonge juste, avant de donner la parole à Natacha, sur qui a conduit l'autre à intervenir. C'est intéressant parce que au départ, les Américains étaient très d'accord pour dire que c'était Israël, et puis la base MAGA a considéré que c'était insupportable. On a beaucoup entendu des gens de MAGA dire « MAGA, make America great again », dire « c'est Israël first, c'est un scandale », et maintenant, rétropédalage, non, non, c'est l'Amérique qui a décidé, et Israël qui a suivi, parce que nous avions des informations selon lesquelles l'Iran allait frapper les États-Unis, ce qui est quand même contestable d'un point de vue même balistique. Natacha.
Oui, cette divergence des récits nous raconte en effet, je pense, la divergence des objectifs. Première remarque, nous sommes à une semaine du déclenchement de cette opération et on commence seulement à sortir de, j'allais dire, de la violence de la propagande qui s'est imposée dans les quelques premiers jours de cette intervention, ce qui est normal, mais ce qui était tout de même assez frappant. Aujourd'hui, on voit émerger des lectures, à mon avis, beaucoup plus distanciées et qui permettent, premier point, de poser le fait que, de toute évidence, les objectifs ne sont pas les mêmes entre Israël et les États-Unis. Très clairement, pour Israël, c'est le prolongement de la guerre qui s'est ouverte le 7 octobre. Oui. Et il s'agissait, dès le départ, de venir à bout de ce régime qui était considéré comme le nœud du problème, la menace existentielle et le point de départ des attaques monstrueuses du 7 octobre. En revanche, du côté de Donald Trump, en effet, les choses sont beaucoup plus complexes, ce qui explique cette communication absolument pas maîtrisée. Premier point, on est dans un moment de bascule géopolitique. Je sais qu'il est de bon ton en ce moment de dire que de toute façon, le droit international, ça ne sert à rien, etc. Le problème, c'est que là, nous avons une intervention qui définitivement enterre toute tentative de droit international et instaure la loi du plus fort. Cette loi du plus fort, elle est formidable quand on est du côté du plus fort. Le jour où le rapport de force s'inverse, ça devient dangereux et c'est pour ça que les pays européens, et on va en parler, la France en particulier, défendent encore le droit international. C'est pas juste de la naïveté. Deuxième point, la question de la destruction des arsenaux est une des dimensions, mais même là, les experts américains ont expliqué que, en effet, l'Iran n'était pas sur le point d'obtenir de quoi frapper le sol américain et les citoyens américains. Donc les intérêts directs américains n'étaient pas en jeu. Est-ce que ça signifie que Donald Trump est à la remorque de Benjamin Netanyahou? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a derrière une stratégie qui est celle, une fois de plus, de la reprise en main par les États-Unis de tout un espace géopolitique dans lequel la Chine s'était infiltrée. Rappelons que, mais là aussi on va parler du Moyen-Orient, mais
oui, on va y aller.
Rappelons qu'en 2023, c'est la Chine qui a fait se réconcilier l'Arabie Saoudite et l'Iran. Rappelons également que l'Iran et le Venezuela sont les principaux fournisseurs de pétrole de la Chine. Oui. Et que ces deux pays vendaient leur pétrole en renminbi, c'est-à-dire en yuan, la monnaie chinoise, et qu'ils étaient donc le lieu de base de la constitution d'un système hors dollar pour les BRICS.
et qui est le cauchemar,
ça, une...
et qui est le cauchemar absolu pour Washington que le dollar ne soit plus le pétrole ne soit plus libellé en dollars. Oui.
Voilà, donc indéniablement, il y a un coup d'arrêt à la dédollarisation du monde. J'ajoute un autre élément qui me semble également important parce que ça relie l'Iran et le Venezuela, c'est le fait que le Hezbollah s'était constitué depuis des décennies comme un trafiquant de drogue, en fait. C'est-à-dire que le Hezbollah intervenait notamment au Venezuela et dans toute l'Amérique latine pour gérer un trafic de drogue qui permettait ensuite un blanchiment qui finançait ses activités. Et que tout cela était dans le viseur de la Drug Enforcement Administration et c'est d'ailleurs toute une part de l'administration américaine qui était fortement opposée au traité nucléaire signé par Obama, justement parce qu'ils estimaient que ça fragilisait la lutte contre ces activités du Hezbollah. Donc il faut avoir tout ça en tête pour comprendre que Trump n'est pas erratique, une fois de plus.
Non, non. Mais
qu'il y a là une volonté très organisée.
Mais de multiples enjeux qui peuvent être parfois un peu contradictoires. Juste, j'ajoute pour la compréhension et la connaissance de nos auditeurs, que la question de la dédollarisation n'est pas aussi sans lien avec l'intervention en Irak en 2003. Gilles.
Oui, deux mots sur la Chine. C'est sans doute la toile de fond de toute la politique extérieure des États-Unis depuis l'élection de Donald Trump et même avant. C'était vrai au Venezuela aussi sur le pétrole. C'est vrai là en Iran à la fois sur la géopolitique et sur le pétrole. Mais c'est pas la cause de l'intervention, c'est-à-dire que le Donald Trump ne fait pas une intervention aussi lourde simplement pour contrarier les intérêts chinois. Deuxième point sur la divergence entre Israéliens et Américains, divergence potentielle, il y a, je trouve, un épisode de cette semaine dont on a insuffisamment parlé, c'est lorsque un navire de guerre iranien a été coulé au large de Sri Lanka.
Oui.
C'est une illustration possible d'une différence de stratégie. Pour les Américains, si l'objectif est d'éradiquer l'arsenal militaire, c'est cohérent. Si l'objectif, du point de vue israélien, est le changement de régime, c'est plus discutable parce que là, on s'attaque non pas aux gardiens de la révolution, mais on s'attaque à l'armée iranienne. Or, à un moment, si on veut qu'il y ait un changement de régime, il faudrait aussi que l'armée bouge. Et donc, c'était, je crois, un élément qui était intéressant.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Ce que veulent les Iraniens, c'est de créer le chaos, c'est de créer l'embrasement. Ils veulent élargir pour faire pression sur le président Trump, pour lui montrer les dégâts que produit l'intervention américaine en Iran, et en plus de cela, pour faire pression sur l'opinion publique américaine, pour leur dire, vous voyez, avec tout ça, le coût du pétrole, vous voyez les difficultés, et donc il faut arrêter, et nous restons là. Et donc, le régime tient pour l'instant, je vous disais en commençant que le conflit va durer, mais la résilience iranienne aussi, avec cette volonté d'élargissement, d'enflammer l'ensemble de la région, ça va durer, je ne peux pas dire, je pense qu'on n'est pas encore rendu au sommet.
Jean-Yves Le Drian, au micro de TF1, l'ancien ministre des Affaires étrangères, représentant personnel aussi du président de la République Emmanuel Macron au Liban, c'était hier matin. Il décrit, on l'a entendu Gilles, une stratégie iranienne d'embrasement régional, de pourrissement comme seul moyen de survivre. Que pensez-vous de cette stratégie iranienne, pays qui semble de plus en plus tout de même isolé dans sa région?
Je crois que vous prononcez un mot qui est très important, et je crois que le nœud, c'est l'Iran. Et qu'au départ, Natacha l'a dit tout à l'heure, il y a le 7 octobre dont on n'a sans doute pas mesuré à quel point il avait eu un impact en Israël, c'est-à-dire le constat d'une vulnérabilité existentielle que la possession de l'arme nucléaire et d'une armée hyperpuissante ne garantissait pas. Et donc qu'Israël devait éradiquer ses ennemis pour vivre en sécurité. Ça a été vrai à Gaza, ça a été vrai au Liban, on y reviendra, mais il y a d'abord l'Iran. Or, avant le 28 février, donc avant l'intervention de la semaine dernière, il y avait un isolement, pour reprendre votre mot, Thomas, du régime iranien. Isolement chez lui avec les contestations internes, isolement à l'extérieur avec la chute de Bachar en Syrie, à laquelle l'Iran a assisté impuissante, avec l'éradication du Hamas à Gaza et avec l'affaiblissement du Hezbollah au Liban. Et le symbole de cet isolement a été la solitude dans laquelle s'est trouvé l'Iran au moment de la guerre des 12 jours. Là, c'est plus que de l'isolement, c'est une vraie solitude du régime iranien. Et c'est très important. Solitude à l'intérieur, là aussi, puisqu'il n'y a eu aucun réflexe de resserrement nationaliste derrière le pays au moment où il est frappé. Ça a même été parfois le contraire, où un certain nombre d'Iraniens s'en sont réjouis. Et à l'extérieur, les partenaires lointains, la Russie, la Chine, sont restés dans une distance prudente. Les pays proches, et c'est ça, je pense, l'élément quand on réfléchit à la reconfiguration de la région, les pays proches, la rupture est consommée avec l'Iran. Dès le départ, c'était très frappant quand on regardait les premiers communiqués sur la responsabilité de ce qui se passait. Et notamment les communiqués de l'Arabie Saoudite. Natacha parlait tout à l'heure
du rapprochement
sous l'égide de la Chine. C'était en mars 2023.
Oui.
Que dit l'Arabie Saoudite? La responsabilité, c'est l'Iran. Et depuis lors, c'est vrai, cette solitude aussi indirecte au Liban, après que le Hezbollah a choisi, d'une certaine manière, son parrain contre sa patrie, et qu'on a vu de quel côté il tombait.
D'où d'ailleurs le titre terrible de L'Orient le Jour, il y a trois jours, le Hezbollah suicide le Liban. Ça rentre exactement dans ce que vous dites.
Hein. Exactement. Et enfin, au Qatar, qui a abattu des missiles iraniens, alors même que depuis des années, le Qatar cherchait une position d'équilibre entre l'Iran et les pays de la région et les pays occidentaux, à la fois pour des raisons de position géopolitique et puis de proximité géographique, de partage des poches de gaz. Et donc, au final, l'isolement du régime iranien est incroyable. On est plus quand même aujourd'hui dans un moment de déconfiguration ou de déconstruction que de reconfiguration, et tout va dépendre de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que le régime iranien chute ou pas?
Et ça ressemble un peu quand même, alors à l'époque il y avait la guerre froide, donc ça changeait un peu la donne, mais Natacha, les premières années du régime où le pays est en guerre contre l'Irak, où le pays est le seul pays, l'un des rares pays de la zone à être chiite, à ne pas être arabe. On a l'impression qu'on retrouve un peu ces grands fondamentaux qu'on avait peut-être un peu oubliés et qui sont quand même le résultat et en tout cas la réalité géopolitique et géostratégique de l'Iran.
Oui, bien entendu. Et l'isolement de l'Iran ne date pas d'hier. L'isolement de l'Iran existait même quand l'Iran avait des proxys. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que l'Iran pouvait se jouer sur le rôle du Hezbollah, du Hamas, des Houthis, etc., que ce n'était pas un pays entouré par l'hostilité de ses voisins. C'est d'ailleurs pour ça qu'en effet, la réconciliation avec l'Arabie Saoudite était quelque chose de très important, qui aujourd'hui a totalement disparu dans les limbes. Donc il y a cet isolement. La première question est de savoir si le régime iranien va finir par tomber et de quelle manière. Et ça va changer énormément de choses. Pour l'instant, personne ne peut prédire comment ça va se passer. Et les tentatives pour peut-être s'appuyer sur les Kurdes, sur les Baloutches, pour essayer de suppléer les attaques aériennes par des interventions au sol, sont on ne peut plus dangereuses, parce que le régime iranien n'est quand même pas dans la même position que celle qui était la sienne au début des années 1980. C'est un régime qui a pu, pendant des décennies, infiltrer l'ensemble des strates de la société iranienne. Alors, il est vomi par toute une partie des Iraniens eux-mêmes qui se sont battus magistralement et courageusement, qui ont payé le prix du sang, mais il est, pour l'instant, relativement solide par rapport à ce qu'on aurait pu attendre après une décapitation aussi forte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question de la déstabilisation autour. Oui, les pays autour rejettent la responsabilité sur l'Iran et donc leur position est très claire. Pour autant, ce qu'il va falloir regarder aussi, c'est la réaction de tous ces pays face à la déstabilisation qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que le Qatar, par exemple, a arrêté sa production de GNL, de gaz naturel liquéfié, ce qui va avoir un impact très important économique pour le monde entier, mais pour le Golfe aussi. La fermeture du détroit d'Hormuz va avoir des conséquences sur non seulement les hydrocarbures, mais les engrais. 30 à 40% des engrais mondiaux viennent des pays du Golfe. Donc sur l'économie des pays du Golfe, tout ça va avoir indéniablement une importance capitale. J'ajoute que le lancement du Board of Peace, du Conseil de la paix de Donald Trump à Davos, s'était fait en grande pompe. Il faut rappeler que ce Conseil de la paix n'a pu être créé que grâce aux milliards versés par les pays du Golfe, qui en fait payent là une partie de leur tribu à la protection militaire américaine.
C'est la Ligue de Delos.
Exactement. Or, cette protection militaire américaine est quand même légèrement fragilisée par le fait que tous ces pays du Golfe ont l'impression que, pour l'instant, en gros, ils n'ont pas eu voix au chapitre, ou très peu. Et on peut ajouter que, évidemment, l'Iran fait tout pour amplifier cela. Par exemple, le ciblage par l'Iran des centres de données aux Émirats Arabes Unis et au Bahreïn, c'est une façon de mettre en danger la protection militaire américaine vis-à-vis des pays du Golfe et donc de fragiliser cette alliance. Oui. Donc on ne sait pas vers quoi tout ça va mener. Tout ce qu'on peut savoir pour l'instant, c'est qu'en termes économiques, ça va retomber sur toutes les classes populaires et les classes moyennes des différents pays du monde, que ça va être extrêmement compliqué et que ce n'est que le début, et que cette déstabilisation du Moyen-Orient, comme d'habitude avec les interventions américaines, on sait comment ça commence, on sait rarement comment ça finit.
Gilles.
Natacha disait, je crois, à raison, que l'Iran était déjà isolé. L'Iran était isolé, mais était puissante. Et c'est ça la différence fondamentale. Elle était puissante.
Ou la croyait-on puissante ? Parce qu'à lire les analystes, c'est en gros, la guerre des 12 jours a dit, mais en fait, ils ne sont pas capables de réagir.
Elle était puissante par ses proxys, elle était puissante par ses alliés en Syrie, ou elle était puissante même par maintenant des partenaires. Ça, tout cela. Donc, non seulement elle a perdu cette puissance d'un point de vue géopolitique, mais par ailleurs, ce qu'on avait déjà pressenti au moment de la guerre des 12 jours et que l'on voit là, c'est que le régime iranien est humilié militairement. C'est-à-dire qu'il a perdu la maîtrise des airs, il a perdu la maîtrise des mers et qu'il a soit épuisé ses stocks de missiles, soit perdu la capacité à les utiliser. Donc, personne ne sait quelle est sa solidité, s'il peut tomber ou pas. Ce qui est sûr, c'est que s'il tombait, pour les raisons que Natacha a évoquées, les pays du Golfe seraient des partenaires pour trouver une stabilité dans la région parce qu'ils y voient leur intérêt vital.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Mes chers compatriotes, je voulais ce soir vous rendre compte de la situation et de nos actions. Beaucoup de choses sont encore instables. Mais la France demeure une puissance qui protège les siens, une puissance attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminée.
C'était mardi la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron, une France attachée à la paix, fiable, prévisible. Il l'a rappelé, la France n'est pas en guerre, mais l'arrivée hier après-midi en Méditerranée du porte-avions Charles de Gaulle, la destruction de drones par la France, l'appel à l'aide du Liban pose des questions. Natacha, quel rôle doit jouer la France dans ce conflit ?
Eh bien, je dirais que le rôle que doit jouer la France, c'est celui qu'elle joue pour l'instant. Je veux dire, Emmanuel Macron a expliqué que la France n'avait été ni prévenue ni impliquée l'attaque menée par Israël et les États-Unis. En effet, la France n'existe pas dans le logiciel de Benjamin Netanyahou, qui considère que on peut tout se permettre pour la sécurité d'Israël et n'existe que très peu dans le logiciel de Donald Trump. Mais ça ne signifie pas, et certainement pas, qu'il faudrait essayer d'exister à tout prix en jouant les supplétifs. Et donc, le fait d'insister de la part d'Emmanuel Macron sur le fait que la France est une puissance prévisible et stable me semble le bon message. C'est-à-dire que, je le répète, la loi du plus fort, ça n'est pas acceptable, même quand on est du côté du plus fort, même quand ce sont nos alliés les plus forts. Donc la France est forcément impliquée dans ce qui est en train de se passer, ne serait-ce que parce qu'elle a des accords de défense et qu'elle va les honorer.
Oui, avec Bahreïn, par exemple.
Et voilà, et la France doit absolument apporter son aide au Liban, qui, une fois de plus, est victime non seulement du Hezbollah, mais aussi d'Israël, des deux en même temps, et qui se retrouve tiraillé avec des centaines de milliers de déplacés, avec des morts. Voilà. Donc ça, c'est le rôle de la France. Derrière ça, cette puissance stable, ça a un sens, parce qu'il y a eu un autre élément extrêmement important cette semaine, un autre discours d'Emmanuel Macron, c'est celui sur la dissuasion nucléaire. Pourquoi c'est important de penser les deux? Parce que justement, c'est parce que la France est une puissance nucléaire, qu'elle est une puissance importante qui compte et qu'il faut développer cette doctrine. Et en l'occurrence, Emmanuel Macron a développé l'idée d'une dissuasion avancée, c'est-à-dire d'une dissuasion qui s'ouvrirait aux pays européens, alors en précisant qu'il n'y a pas de partage de la définition des intérêts vitaux, il n'y a pas de partage de la décision nucléaire, mais il y a une implication grandissante des pays que d'ailleurs Emmanuel Macron a listés, hein, Pologne, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Grèce, Suède, Danemark. Je voudrais juste préciser une chose pour qu'on comprenne bien ce que ça signifie, cette question de la dissuasion. Il faut bien avoir en tête les différentes doctrines. Nos alliés européens sont partie prenante dans la doctrine de l'OTAN, qui est une doctrine de dissuasion différente de celle de la France. Il faut rappeler une chose, c'est que la doctrine otanienne inclut l'usage d'armes nucléaires tactiques. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une déstabilisation sur le champ de bataille, eh bien on peut rétablir la situation en envoyant une bombe nucléaire. Ça veut dire que si la Russie décidait d'attaquer des pays de l'OTAN, donc des pays européens, et que ça se passait mal, eh bien, normalement, l'OTAN peut décider d'envoyer une bombe nucléaire sur le champ de bataille, donc sur les pays européens eux-mêmes. Ça n'est absolument pas la doctrine française, qui est une doctrine de frappe stratégique. Alors, il peut y avoir une frappe symbolique pré-stratégique, c'est-à-dire qu'en gros, on envoie sur une zone peu habitée pour dire « attention, nous allons frapper », et derrière, une frappe stratégique.
Ouais, c'est très clair. Gilles, je reviens quand même à la phrase de Macron, parce que le président de la République, Emmanuel Macron, dit « prévisible ». Est-ce que dans un monde comme aujourd'hui, se dire « prévisible », c'est pas un signe de faiblesse?
Alors, il se dit « prévisible », mais pour quand on lit le discours de l'île longue qu'évoquait Natacha, la France est moins précise qu'elle ne l'était auparavant. Par exemple, elle ne dit plus quelle est la quantité de têtes nucléaires dont elle dispose. Tout président de la République prononce beaucoup de discours, et Emmanuel Macron davantage encore que les autres, et on voit là aujourd'hui il y a les deux discours. Mais le discours
sachant que le discours sur le nucléaire était prévu depuis de longue date.
Bien sûr. Et c'est un discours sur la doctrine de dissuasion nucléaire. Il y en a peu qui sont prononcés par les présidents de la République dans l'exercice de leurs fonctions. A fortiori, c'est pour ça que ce discours était important, dans le contexte géopolitique mouvant et dangereux que nous connaissons, il se trouve que ce matin, au dernier moment, j'ai lu le premier discours qu'Emmanuel Macron avait fait en 2020, le premier discours de doctrine de la dissuasion nucléaire, et c'est vertigineux parce qu'on mesure à quel point on a changé de monde en l'espace de 6 ans. Ce discours... quand on n'est pas un spécialiste des questions de défense, et comme on n'est pas un spécialiste dans les questions de défense, des questions de dissuasion nucléaire, ça donne une impression bizarre, parce que ce n'est pas une langue étrangère, mais ce n'est pas une langue familière non plus. Tout est codé, tout est crypté, tout est pesé, et donc il faut essayer de déplier ce discours. Les Français en ont sans doute ceux qui ont regardé les journaux télévisés de 20h eut une image qui était le président de la République devant le sous-marin nucléaire Le Téméraire, qui dit, c'est la phrase qui a été retenue, la puissance de frappe équivaut à la somme de toutes les bombes tombées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Frappant, ouais. Ça dit la gravité du moment, la puissance, et les mots, ça c'est l'image. Les mots disent deux choses. La continuité, c'est ce qu'évoquait Natacha, la continuité stratégique pour les Français, le nucléaire est seulement une arme défensive, et la continuité opérationnelle, qui est un élément très important, et là je cite Emmanuel Macron, aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en œuvre, ni de la définition de nos intérêts vitaux. Donc on est au cœur de la souveraineté et de la souveraineté nationale, pas d'une souveraineté partagée, pas d'une souveraineté européenne, et on est au cœur de la décision ultime du président de la République élu au suffrage universel direct. Mais, et c'est là où c'est intéressant, il y a deux inflexions qui en réalité n'en font qu'une. La première, c'est le premier concept, c'est ce qu'a évoqué Natacha, la dissuasion avancée. Quand je dis c'est un langage crypté, c'est-à-dire l'idée que c'est pas seulement que nos intérêts vitaux ne s'arrêtent pas aux frontières de la France, que ce qu'avaient déjà dit ses partenaires, mais c'est que ça peut aller plus loin. Par exemple, qu'on peut avoir des déploiements de circonstances, là aussi je reprends la formule d'Emmanuel Macron, de forces stratégiques chez nos alliés. Et le second concept, encore plus crypté, c'est l'épaulement stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'épaulement stratégique? Ça veut dire que les forces alliées à la France, européennes, peuvent contribuer à la crédibilité de notre propre dissuasion par des forces conventionnelles. C'est par exemple qu'on ait des satellites et des radars qui permettent de nous alerter, qu'on ait des protections antimissiles et anti-drones. Et pourquoi, je termine, c'est ma dernière phrase, pourquoi ces deux réflexions, ces deux inflexions n'en font qu'une? La dissuasion avancée, ça veut dire que la France peut soutenir ses alliés européens avec sa force de frappe nucléaire. L'épaulement stratégique, ça veut dire que les alliés européens peuvent aider la France avec leurs moyens conventionnels. On est au tout début d'un processus. Ça peut prendre 10, 20 ans, peut-être. C'est davantage encore que des investissements et des moyens opérationnels, c'est un changement de culture stratégique, notamment pour nos alliés européens.
Comme le président l'a dit, pour être libre, il faut aussi être craint, et être craint, ça passe aussi par ça. Natacha.
En un mot, la question de l'épaulement stratégique, c'est ça qui peut potentiellement poser problème, ou qu'en tout cas il va falloir observer pourquoi. Parce que ça veut dire qu'en fait, nous pourrions petit à petit, étant donné nos difficultés de financement, nous appuyer de plus en plus sur, notamment, les 100 milliards d'euros de l'Allemagne, pour permettre de crédibiliser notre force de dissuasion par des forces conventionnelles. Et donc, nous pourrions petit à petit, si nous ne pensons pas cela en termes de budget et en termes réellement de vision stratégique, nous pourrions petit à petit, certes, remplacer en partie le parapluie américain, et c'est parfaitement nécessaire puisque nulle part la dissuasion n'apparaît dans les documents de stratégie publiés par Donald Trump, qui s'en fiche complètement. Mais en revanche, ça pourrait impliquer que nous soyons un petit peu moins souverains dans la mesure où nous aurions toujours le bouton. Mais la question, c'est est-ce qu'on pourrait appuyer dessus sans un soutien européen? Donc c'est ça dont il faut se méfier.
Se méfier et la crainte, transition malhabile avec notre invité, et celle évidemment de la trahison de la promesse de souveraineté nationale du président Charles de Gaulle au début de la dissuasion nucléaire. Allez, place au débat.
Le grand face-à-face. Le débat.
Vous avez souri, merci d'être gentil avec moi. Bonjour Fanny Lalo.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante-chercheuse en psychologie sociale à l'université de Bâle en Suisse et vous signez aux éditions Les Léonides cet essai « Trahir et être trahi », sous-titre « Analyse psychosociale du coup de poignard dans le dos ». Très bon sous-titre. Vous allez nous dire quelles sont les 9 façons peut-être de trahir, comment y répondre, mais pour commencer, un tour dans l'actualité politique où les trahisons sont légion. Campagne des élections municipales oblige, je vous propose de nous rendre plus tôt aux États-Unis où Marjorie Taylor Greene voit MAGA, Make America Great Again, longtemps alliée absolue de Trump, est aujourd'hui une grande opposante. Elle s'en est pris au président républicain en des termes qui vont sûrement faire réagir la psychologue sociale que vous êtes. Marjorie Taylor Greene a posté un message très très dur sur ses réseaux.
Des milliers et des milliers d'Américains de ma génération ont été tués et blessés dans des guerres étrangères interminables et inutiles. Et on nous a dit « plus jamais ça ». C'est toujours un mensonge et c'est toujours pour mettre l'Amérique en dernier. Mais cette fois, on a l'impression que c'est la pire trahison parce qu'elle vient du même homme et du même gouvernement dont nous pensions tous qu'il était différent et qu'il disait « ça suffit ».
Alors, on a souvent besoin d'une bonne psychologue pour analyser ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. On a en tout cas une bonne entrée en matière, je crois, pour définir avec vous ce qu'est la trahison. Je précise évidemment que Marjorie Taylor Greene était l'une des grandes égéries MAGA, une trumpiste jusqu'au bout des ongles. C'est important que je précise ça, je pense, pour mesurer le degré de trahison qui est évoqué ici. Mais je vous écoute, c'est quoi la trahison ici ?
Exactement. En fait, je pense que ce qui est très intéressant du fait que ça vient d'elle, c'est qu'il ne peut pas y avoir de trahison s'il n'y avait pas eu confiance au préalable. Ouais. Une personne en qui on n'a pas confiance peut nous faire vivre beaucoup de colère, de frustration. On peut être déçu par ce qu'elle fait, mais s'il n'y avait pas confiance, il n'y a pas trahison. Et je pense que c'est ça qu'elle reflète vraiment, c'est que cette base trumpiste, MAGA, etc., qui jusque-là était prête à soutenir Trump, en fait, là, se sent extrêmement déçue, puisqu'il y a des actions qu'il avait promis de jamais faire. C'était tout le programme de « il était différent, il n'irait pas faire de guerre ailleurs », etc. Ouais. C'est ça qu'elle dit, en fait. Mmh. C'est la rupture de ces promesses-là qui s'ajoute et qui donne l'impression d'une trahison.
Est-ce que c'est parce que, aussi, la confiance était totale que la trahison est encore plus mal vécue ? Est-ce qu'il y a un degré là qui se joue ?
Oui, c'est possible aussi. Plus on faisait confiance, plus on tombe de haut, en fait. Dans la même logique de si on ne faisait pas confiance, ben, il n'y a pas trahison. On sait par ailleurs, c'est des travaux très jolis qu'on appelle l'effet black sheep, un mouton noir en français, que les membres d'un groupe peuvent être beaucoup plus durs, en fait, quand on juge quelqu'un qui fait partie du même groupe, dans ce cas-là, notre propre leader, que quand on juge un groupe externe.
C'est intéressant, et d'autant plus que Donald Trump lui-même exige une forme de loyauté total de la part de son troupeau, si je reprends la métaphore de Black Sheep. Il a d'ailleurs accusé depuis des mois, Marjorie Taylor Greene, la même qu'il accuse de trahison, d'être une traîtresse au mouvement MAGA. Il lui donne un surnom génial. D'ailleurs, Trump est très très bon en surnom, moins bon peut-être en surmoi. Il l'appelle Marjorie Traitor Greene, Marjorie Greene la traîtresse. Est-ce que ça renforce encore cette dimension de qui est traître, qui est le traître ? Est-ce que ça se joue aussi à ce niveau-là ?
Je pense qu'on voit aussi que le mot de traîtrise et de trahison, en fait, est extrêmement fort. Et donc, peut être utilisé en politique de façon assez simple pour vraiment essayer de désigner tout le mal, tout ce qu'on peut essayer de mettre sur... Alors, souvent, c'est sur un adversaire. Là, c'est d'autant plus étonnant qu'en fait, c'est au sein même du parti qu'on a du coup cette accusation envers un des suiveurs, ou bien le chef même. Mais oui.
Oui, Gilles Finkelstein, qui suit depuis des années la vie politique française, sait que souvent les attaques en traîtrise sont encore plus dures dans son propre camp, n'est-ce pas Gilles ?
Je confirme.
Je vous laisse la parole.
Quand on vous lit, ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure à quel point la trahison est un événement exceptionnel et banal. Exceptionnel, c'est ce qu'on évoquait à l'instant parce que c'est un mot qui est très fort, c'est un événement qui peut être un événement traumatique et banal parce que vous décrivez des situations communes qui recouvrent une très grande diversité de choses et vous montrez à quel point chacun de nous a été trahi et a trahi. Dans la grande diversité de ces situations, et vous dressez la typologie, vous décrivez les différentes situations, à la fois de la trahison vue du côté de celui qui a trahi, et vue du côté de celui qui a été trahi, et aussi, et c'est très intéressant, on y viendra, de l'après-trahison, parce qu'il y a une trahison, mais après la trahison, la vie ne s'arrête pas. La question que je voudrais vous poser, vous évoquiez tout à l'heure cette question qui est consubstantielle à celle de la trahison, qui est celle de la confiance. Dans la définition que vous donnez de la trahison, vous montrez à quel point la confiance d'une part et ce que vous dites des règles déterminées socialement de relations sont importantes. Et vous appuyez dans ce livre sur 900 récits de trahison de Français, de Suisses, et d'anglais. Et vous évoquez aussi beaucoup d'études internationales. La question que je voudrais vous poser est la suivante, c'est y a-t-il des singularités nationales ? Parce que ces règles déterminées socialement, elles ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. La confiance, elle n'est pas la même non plus d'un pays à un autre. Donc, est-ce qu'il y a des singularités nationales? Est-ce qu'il y a une singularité française dans ce rapport à la trahison?
Fanny Lalo.
Effectivement, en fait, ce qui est intéressant dans cette idée de la trahison, c'est que c'est hautement subjectif. On a ces attentes relationnelles, comme vous le mentionnez, on s'attend à un certain type de comportement de la part des membres de notre famille, de nos amis, du partenaire, etc. Et c'est quand ces attentes sont rompues qu'on va parler de trahison. Vu que ces attentes sont hautement subjectives, mais aussi culturellement déterminées, on pourrait s'attendre à des différences interculturelles, donc question tout à fait légitime. Malheureusement, rien de très intéressant dans nos données là-dessus. Dans notre grande comparaison, j'ajoute d'ailleurs que les 900 récits que vous avez mentionnés ont été suivis d'encore 1100 récits du point de vue du perpétrateur, et où là on a aussi des données d'Américains, d'Anglais, d'Allemands, donc en plus des Français et des Suisses. Donc on commence à taper dans pas mal de pays différents, même si tous relativement occidentaux, etc.
Oui, c'est ça, on a envie un peu d'aller ailleurs en vrai.
Oui, il faudrait.
Mais on sait des choses sur ailleurs?
Peu.
C'est la trahison, je sais pas, dans des mondes africains, dans des mondes asiatiques par exemple?
Peu, ça c'est une tragédie de la recherche en sciences sociales en général. La recherche se fait souvent là où on est,
oui.
Et il y a plus de chercheurs et de moyens et de choses qui se font en Occident, et donc on en sait plus là-dessus. Il y a une barrière de langue aussi. Il faudrait trouver moyen de recruter ces gens. Après, avec Internet et des questionnaires en ligne, c'est faisable. Mais là, typiquement, avec notre analyse des récits, il faudrait être sûr qu'on comprend les nuances de langue d'une personne qui me fait un récit en tagalog ou autre langue que je ne maîtriserais pas. Et donc, il faudrait vraiment, en fait, des collaborations sur le terrain pour réussir à faire ça. C'est plus compliqué. Donc,
et
on
donc,
a
pour
peu
répondre
de récits là-dessus.
Donc, il n'y a pas
des cultures nationales, mais pas de singularité nationale.
Voilà. Peu, en tout cas, dans ce que les personnes nous rapportent. C'est-à-dire que quand on regarde ces fameux 9 types de trahison, en fait, sur lesquels on va pouvoir revenir, je pense, c'est les mêmes types de récits, les mêmes 9 catégories qui ressortent dans toutes les cultures qu'on a pu considérer.
C'est quoi, par exemple, un type de trahison? Dites-nous, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une trahison ou pas de trahison. Vous dites, non, c'est plus compliqué.
Surtout, ça peut prendre des formes très différentes.
Alors, donc, c'est 9 formes de trahison.
C'est 9 formes ou types de trahison. Ouais. Le premier qui vous vient probablement à l'esprit, c'est infidélité sexuelle.
Ouais.
C'est le grand classique, etc. Sauf qu'en fait, infidélité ou déloyauté, ça, c'est pas forcément sexuel, c'est pas forcément le partenaire. On peut avoir des attentes de loyauté fortes envers, par exemple, les membres de notre famille, nos très très proches amis. Cette idée vraiment de jamais défaillir, toujours être là pour l'autre, et ça peut être trahi, ces attentes-là peuvent être violées. Donc ça, c'est un premier cas. On a aussi le fait de mentir. Le mensonge, du coup, pas relié à une infidélité, mais à juste un mensonge pour le fait de mentir. L'idée de manipuler, tirer profit, va être une autre catégorie. Le fait de révéler des secrets, très très présent, surtout par les plus jeunes, mais pas que, sur le monde du travail, ça apparaît beaucoup, etc. Le fait de calomnier, répandre des rumeurs, pour porter atteinte à la réputation d'autrui, c'est aussi une trahison. Le fait de couper les ponts de façon inattendue, assez amusant, c'est vécu comme une trahison quand, alors soit c'est une personne avec qui on a une relation, mais un ami, tout à coup, arrête de nous répondre, prendre la distance, etc., et qu'on ne sait pas pourquoi, c'est vécu comme une trahison. On a aussi, je vous les liste, le fait de manquer d'offrir de l'aide ou du soutien dans une période vraiment on en avait besoin. On a des gens, des plus jeunes qui nous rapportent « mes parents étaient en train de divorcer, j'avais besoin de mon amie, elle n'était pas là ». Ça a été une trahison horrible, je comptais sur elle. D'autres personnes qui essaient de se sortir d'une toxicomanie ou de choses comme ça, le proche avait dit qu'il aiderait, il n'est pas là non plus, c'est vécu comme une trahison. Et je crois que je vous avais tous les... Non, il m'en manque 2. Nous avons encore... je l'ai gardé pour la fin parce que c'est une catégorie très large. Le fait de décevoir les attentes. Et c'est là qu'on tombe sur la trahison banale, en fait, au quotidien. On a des attentes vis-à-vis d'autrui et autrui n'y répond pas et on se sent déçu. Mais là, on parle vraiment de choses comme annuler le rendez-vous à la dernière minute.
Ah.
Ne pas inviter un proche à son mariage. Mon Dieu, catastrophe, je pensais que je méritais d'être invitée, elle ne m'a pas invitée. C'est vécu comme une trahison. On rentre dans ces petites choses de la vie quotidienne, mais que les gens nous rapportent 10 ans plus tard en nous disant « à ce jour, je lui en veux, elle aurait dû le faire ».
Il y avait une 9e, non?
Et il y a une 9e, alors voilà.
Bien je suis, hein.
Bon, bah ouais. La 9e est en chiffre absolu, apparaît peu dans nos études, mais c'est aussi la plus grave, c'est le cas des abus. Abus physiques, abus psychologiques.
C'est considéré comme une trahison, ça?
C'est considéré, en tout cas, étant donné que nos participants nous l'ont rapporté, on adopte leur point de vue et on accepte de dire que oui, il y a trahison. S'il y avait des attentes positives de dire « jamais une personne ne devrait agir de cette façon-là envers moi, je lui faisais confiance » et que c'est violé...
Donc on correspond que c'est un hiatus entre une attente et ce qui est réalisé effectivement. Natacha.
Oui, genre, je voulais aussi souligner le fait que ce livre est très drôle et très simple à lire et qu'il nous permet justement d'affronter notre subjectivité, notre capacité à nous mentir à nous-mêmes.
Oui, c'est vrai.
Toujours les difficultés des relations interpersonnelles et en ça, c'est passionnant. Et
d'ailleurs, l'une des questions qu'on pourra poser à Fanny Lalo, c'est est-ce que le principal traître n'est pas en nous-mêmes?
Mais bien
et qu'on
sûr.
Se trahit nous-mêmes soi-même.
Mais allez-y. J'ajoute une chose, c'est qu'il y a des exemples vraiment très clairs et j'ai beaucoup apprécié, par exemple, l'interdit du mensonge chez Kant ou l'existentialisme appliqué à la relation entre Joey, Monica et Chandler, c'est-à-dire les personnages de Friends, c'est-à-dire quand l'un sait que l'autre a trompé le troisième. C'est tout ça pour dire que c'est extrêmement clair. Alors j'en viens justement, ce cas que vous citez est un cas, par exemple, de dilemme moral. Parce qu'en fait, tout ça repose énormément sur une codification des rapports sociaux. Nous savons tous qu'il y a des choses qui ne se font pas, qu'il y a des choses qu'on doit faire, même quand ce n'est pas explicité. Et je me posais la question, est-ce que ces principes philosophiques qui consistent à dire, par exemple, chez Kant, quoi qu'il arrive, on ne ment pas, ou une autre vision chez Aristote, et même la question des religions, les règles morales induites dans les religions, est-ce que tout ça, c'est en fait une manière de réguler tous ces rapports pour éviter les mauvaises interprétations, le fait que les êtres humains ont quand même énormément de mal à se mettre à la place de l'autre?
Fanny Lalo, sur la question de l'empathie et de la trahison.
Absolument. Alors déjà, merci d'apprécier mon sens de l'humour. Je suis ravie de voir que ça a pu passer et rendre la lecture plus agréable.
Oui.
C'est super. C'est vrai que cette notion du dilemme moral, je la trouvais très intéressante parce que ça va au-delà de l'image principe basique qu'on a de la trahison, de la personne est égoïste, met ses intérêts propres en premier et donc trahit parce qu'on sacrifie l'autre. On voit, on l'a vu dans les récits qu'on a récoltés, qu'il y a des cas où c'est beaucoup plus compliqué et complexe, parce que déjà, on n'a pas juste une relation avec l'autre, tout ça s'inscrit dans un contexte social plus grand. Il y a du coup ces normes, ces attentes différentes qui peuvent être régulées, comme Natacha vient de le dire, par la religion, par les normes, etc. Mais on peut aussi avoir des moments où les intérêts sont contradictoires.
Absolument.
Une tierce personne fait pression sur moi pour que je lui révèle le secret du premier, parce qu'en fait, elle est inquiète. Qu'est-ce que je fais? C'est un bon sentiment. Est-ce que je me dois du coup de révéler parce que je pense que c'est pour le bien de la première? Mais j'ai promis de ne pas révéler le secret. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que mon exemple avec Joey Monica Chandler, pour moi, c'était de montrer qu'en fait, c'est insoluble. Parce que des approches philosophiques différentes donnent des réponses différentes. Et donc, en fait, c'est à chacun un peu de trouver sa voie là-dedans. Mon conseil, ce serait d'essayer au moins de s'expliquer sur pourquoi, au final, quel raisonnement on a suivi, qui ont poussé à telle action pour tous les parties impliquées. Ce soit clair.
Oui, et pourquoi la personne trahie se sent trahie. Je repense, et effectivement, dès qu'on creuse un peu les histoires, on voit que c'est souvent beaucoup plus compliqué, que selon qui parle, c'est des réalités différentes. Mmh. Et je repense au roman qu'on a adoré, et que Gilles, grand lecteur de Sors Chalandon, a adoré, Mon traître. Je ne sais pas si vous l'avez lu ce livre, c'est un roman extraordinaire qui raconte à quel point une traîtrise apparemment évidente est beaucoup plus compliquée quand on connaît les tenants et les aboutissants. Je ne trahirai pas Sors Chalandon en vous racontant l'histoire, évidemment. Gilles.
Le livre s'ouvre et se ferme sur César, et pourtant l'essentiel est de la trahison privée de la relation interpersonnelle, et on parle peu de politique par lequel la conversation s'est ouverte avec MAGA et Trump. Dans les modes de résolution de la trahison, il y en a un qui n'est pas le seul, loin de là, mais qui est la vengeance. Et la question que je me posais en essayant de transposer ce que vous écriviez dans la sphère privée à la sphère publique, vous dites que la vengeance, le désir de vengeance, est plus fort quand celui qui a été trahi pense qu'il y a eu intentionnalité de la part de celui qui trahit. Ce désir de vengeance est plus fort quand il a une relation moins proche avec celui qui le trahit. Et ce désir de vengeance est plus fort quand la trahison provoque de la colère. Et quand on reprend ces différents éléments, la question que je me posais, c'était est-ce que ce désir de vengeance est un facteur explicatif du vote pour les populismes et notamment
pour l'extrême droite. Est-ce qu'on a des éléments? C'est l'hypothèse que je formulais, en tout cas la question que je me posais. Je ne sais pas si vous avez des réponses à cette question. Bah, je vous emmène peut-être loin de
Oui, mais je suis sûr que la psychologie sociale s'intéresse au vote, s'intéresse à la manière dont les électeurs se décident.
Oui, non, absolument. Il y a un champ à part qui s'appelle la psychologie politique, mais en fait,
c'est de la psychologie sociale.
Les mêmes théories en fait, qu'on a et qu'on emprunte aussi aux politologues et tout. Je ne veux pas non plus dire qu'il n'y a que nous qui faisons ça.
Alors, la vengeance
mais
et la trahison.
Mais on s'y intéresse. Et donc,
le vote du ressentiment.
En politique. C'est intéressant comme point de vue. C'est vrai qu'on n'utilise pas ce vocable en général quand on parle des citoyens, des votants qui changent, qui changent d'avis ou qui décident de ne plus soutenir la personne. Un des soucis avec le fait de faire le parallèle, c'est qu'on est clairement sur une relation de pouvoir qui est très asymétrique. Mmh. Dans les relations interpersonnelles, alors oui, on peut avoir un patron et son employé, c'est pas exactement le même niveau, et d'ailleurs on voit que ça a des implications sur comment on se venge. Se venger d'un politicien, c'est plus compliqué, à part si on part sur des cas très extrêmes, d'aller poser une bombe au domicile d'une personne, d'aller l'attaquer, comme on voit, cela dit, comme on commence à voir se produire ce genre d'événement aux États-Unis, mais aussi en France.
Non, mais là, vous allez vers des cas extrêmes, mais moi, j'entends partout, tout le temps dire « la gauche a trahi les classes populaires ».
Oui.
Et que ça engage un vote de telle manière, cette question de la trahison, elle est en tout cas utilisée politiquement. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est utilisée politiquement. On sent que la trahison, c'est quand même c'est un carburant formidable en politique.
La trahison, oui. C'est le terme de vengeance, où je suis moins sûre qu'il s'applique directement. Après, c'est évident que l'aspect... En fait, vous avez beaucoup de recherches dans ces milieux-là qui lient la perte de confiance, par exemple, avec un changement de vote. Et l'idée principale, c'est que la confiance, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de très positif. Il faudrait toujours faire confiance, la confiance c'est génial. Oui, à partir du moment où le gouvernement en question est digne de votre confiance. Et il y a cette nuance qui est faite dans les écrits justement en psychologie politique, de dire qu'un citoyen qui fait confiance n'est pas un citoyen naïf, c'est quelqu'un qui arrive à jauger les signes et qui, le cas échéant, peut retirer sa confiance et la mettre, alors on espère, vers une alternative qui en serait plus digne. En tout cas, de passer par les urnes pour enlever le gouvernement qui a trahi la confiance.
Et Dieu sait que, étude après étude, la confiance est érodée pour notre personnel politique et même d'ailleurs pour toutes les autorités, y compris journalistiques. Natacha.
Vous expliquez combien, en fait, la confiance se construit dès l'enfance. C'est en fait la place de la confiance dans la structure familiale qui va impliquer ensuite une tendance à faire confiance aux autres ou au contraire à être défiant. Et là aussi, j'ai presque envie d'étendre à la question plus large d'une population, puisque vous expliquez à un autre moment que, par exemple, la France est un pays où, et on le sait, les études, et Gilles en cite souvent, le disent, la France est un pays où il y a très peu de confiance interpersonnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a là une forme de souffrance et de névrose? Et comment on fait pour réparer ça et pour éviter justement de perpétuer cette défiance qui détruit les liens?
Ce qui permet d'ailleurs, parce qu'on arrive déjà vers le bout de notre entretien, de s'interroger sur l'après. Que fait-on après la trahison? Comment reconstitue-t-on un corps social ou un corps biologique qui a été trahi? Fanny Lalo.
Alors sur les bases effectivement de cette confiance et d'où elle vient, c'est vrai qu'on remarque que les premières expériences de vie ont un aspect très fondateur là-dedans. En fait, en tant que petit enfant jusqu'à l'adolescence, on évolue dans le monde social et on apprend expérience après expérience que quand autrui me promet quelque chose, en général c'est une promesse qui est tenue, ou au contraire que les gens mentent, que les gens filoutent, etc. On en tire des schémas sur comment les gens fonctionnent en général qui vont nous suivre après au cours de la vie. Alors, ce n'est pas complètement figé et impossible à changer, mais ça reste quand même une sacrée coloration sur comment on perçoit ensuite les expériences de la vie adulte.
Mmh. Gilles.
Toujours sur cette après-trahison dont vous dressez un tableau, il y a un schéma à la fois de celui qui a trahi et vous expliquer ce qu'il peut faire, fournir des explications, présenter des excuses, offrir une réparation, être dans le déni, et de celui du côté qui est trahi, qui peut ignorer la trahison, se confronter à celui qui l'a trahi, mettre fin à la relation, la vengeance qu'on a évoquée et le pardon. Et c'est sur le pardon que je voudrais vous interroger en vous posant un peu la même question que tout à l'heure. le pardon, ça dépend beaucoup, le rapport au pardon, de la culture nationale et de la culture religieuse. Est-ce que là aussi, il y a des singularités ou pas dans ce rapport au pardon comme sortie de la trahison?
Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a... Alors, en général, le pardon est toujours relativement bien perçu. C'est rare de voir le pardon comme une faiblesse, mais la mesure dans laquelle on peut avoir, par exemple, une pression sociale au fait de pardonner va dépendre du milieu culturel, religieux, etc., dans lequel on est.
Est-ce que le trahi ne devient jamais traître? Est-ce que l'expérience de la trahison vécue fait qu'on est beaucoup plus attentif ensuite et que le trahi ne devient pas traître, en fait?
Si, c'est possible. On voit aussi que les personnes qui font peu confiance sont aussi moins dignes de confiance. Vous les mettez dans des paradigmes en laboratoire où elles peuvent garder plus d'argent pour elles, trahir autrui, etc. Elles le font plus. Et en fait, on voit qu'on projette sur autrui nos propres fonctionnements. Donc, ce que vous dites à l'inverse est probable aussi. On vit des expériences qui nous montrent que les autres ne sont pas dignes de confiance. On s'adapte, en fait, et on se met au même niveau de fonctionnement. Mmh. Et je pense qu'on en revient du coup sur ces mécanismes sociaux qui nous montrent comment, au sein d'un pays ou même d'un plus petit microcosme, la confiance peut commencer à baisser et plus personne ne se fait confiance parmi. C'est parce qu'on profondément l'humain s'adapte et commence à agir comme les autres.
Une dernière question, quand on est enseignante et chercheuse en sciences sociales, en psychologie sociale et qu'on travaille depuis des années sur la trahison, est-ce qu'on fait attention à ne jamais trahir les autres?
On devient un peu obsédé par la question. Je pense que ça n'empêche pas de ne jamais trahir, puisque ça peut aussi être involontaire, des violations d'attente qu'on n'a pas vues, etc. Ça rend très très sensible à la question. Oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Trahir et être trahi, c'est à lire aux éditions Les Léonides. Merci Gilles, merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatt et Romain Bonifacci. Aujourd'hui à la préparation de l'émission, Marie Merrier à sa réalisation. Aujourd'hui, Vincent Désière était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.